Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Salut à vous et bienvenue dans cet épisode bonus d'Histoire de succès. Je vous propose aujourd'hui un replay, le replay d'une discussion qu'on a pu avoir avec Caroline en live sur ma chaîne Twitch. D'ailleurs, je vous invite à venir me suivre et à découvrir cette plateforme. Vous pourrez trouver le lien dans les notes de cet épisode. On a eu avec Caroline une discussion suite à un message Instagram. Enfin, vous entendrez, je vous raconte tout ça dans le replay. Et je trouvais intéressant de vous le proposer dans Histoire de succès parce qu'on parle tout simplement de création d'entreprise et de revente d'entreprise. Et je trouve que la discussion en tant que telle est... Et les prises de tête de Caroline sont vraiment pertinentes au sein de ce podcast. Donc voilà, je vous donne rendez-vous, moi, de mon côté, jeudi, pour un vrai épisode, entre guillemets, d'Histoire de succès. Mais en attendant, je vous souhaite une bonne écoute avec Caroline. Et je vous dis rendez-vous donc jeudi, mais également le lundi, le mercredi et le vendredi à 20h sur Twitch. Je fais des lives où je reçois des invités que je trouve, moi, trop canon, quoi. Merci à vous. On va faire un épisode un peu spécial sur ma chaîne Twitch. Ce soir... Avec Caroline qui est là. Caroline, tu vis... Salut Tiffaine également. Caroline, tu vis à Vienne, tu me racontais.
Oui, Vienne en Autriche et pas à Vienne. Parce qu'il me semble dans les coins de Lyon, il y a une ville qui s'appelle Vienne aussi. Donc c'est Vienne en Autriche.
Tu as décidé de... La capitale de l'Autriche. Tu as décidé de partir là-bas il y a 2 ans, c'est ça?
C'est ça, ouais. Début 2019.
Tu vas nous raconter un petit peu pourquoi. En fait, à la base, si t'es dans mon live ce soir, c'est parce que tu m'as envoyé... alors, je ne sais pas.
Spammé.
Je pense 15 messages vocaux, un truc comme ça, sur Instagram.
Oui, une minute.
Ouais, voilà.
Instagram, très, très, très peu pratique.
J'adore les longues notes vocales que les gens peuvent m'envoyer. Tu vois, avec des amis, on se fait ça. On s'envoie parfois des longues notes. On appelle ça des podcasts entre nous. Mais on fait ça. Parfois, on s'envoie des messages de 5, 10 minutes. Mais c'est vrai que sur Insta, c'est ultra pénible parce que c'est limité à une minute.
Ouais, mais je trouve que c'est cool pour justement... Même envoyer des messages à des gens que t'as jamais rencontrés, c'est vraiment plus sympa en fait. Ça, je trouve que c'est sympa déjà d'entendre qui est la personne derrière.
Ça personnalise un peu mieux. et en fait, tu m'as intéressé parce que tu m'as raconté un petit peu ton histoire, en sachant que à la base, tu avais publié un témoignage sur Mademoiselle il y a quelques années. Où tu racontais un peu ton histoire, on va y venir. Et en fait, tu me racontais aussi et tu me demandais un petit peu comment ça se passait pour moi l'après Mademoiselle. Si j'ai bien compris, t'as écouté la FAQ.
Oui, j'étais pas au live, mais j'écoutais. Tu l'as remis en podcast, donc voilà.
Ouais.
Ok. J'avais suivi entre temps, tu sais, le départ de Mademoiselle et tout. Donc c'est un truc déjà que j'avais en tête et je m'étais dit qu'un jour je te contacterais dessus. Enfin, à ce sujet.
Okay.
Et quand j'ai écouté la FAQ, je me suis dit, bon, c'est le moment là de...
Trop bien.
De se lancer.
T'as bien fait. Et je me suis dit plutôt que... Enfin, tu vois, d'abord, j'ai hésité. Je me suis dit, bah, peut-être que je vais moi aussi te répondre 15 messages vocaux et en fait, ça va être chiant. Je me suis dit aussi qu'on pourrait très bien avoir cette discussion en live tous les deux. Alors, il faut que tu te décales un peu sur... voilà, un peu plus comme ça, c'est mieux, voilà, par rapport à mon setup. Sinon, t'es plus cadré. et je me disais qu'en fait, ça pourrait être beaucoup plus sympa d'avoir cette discussion en live, peut-être avec les gens du chat aussi, que de l'avoir juste nous, parce que je crois que si ça t'a chafouiné toi de ton côté et que ça me chafouine moi aussi aujourd'hui, c'est peut-être que ça peut, peut-être que nos prises de tête et nos interrogations peuvent aussi parler à d'autres, quoi. Est-ce que tu peux peut-être déjà commencer par te présenter et raconter un petit peu ce que tu as fait dans la vie?
Ouais, alors j'ai l'impression qu'en fait tous les ans ou tous les 2-3 ans, c'est toujours plus long à expliquer. J'ai l'impression qu'à chaque fois je passe par des chemins biscornus en fait, et à chaque fois, j'ai rajouté une étape un peu plus bizarre, un peu plus illogique. Donc tout commence. Donc je viens de Bretagne, de Loire-Atlantique plus précisément. J'ai toujours été un petit peu, on va dire, quand j'étais adolescente, toujours été dans des styles alternatifs et toujours un truc qui m'a botté d'être dans des styles différents et d'être un peu le mouton noir, black sheep. C'est ça qu'on dit. Oui, si, ouais. Si d'ailleurs j'ai un peu des difficultés à parler français, c'est pas que je veux me la péter ou quoi, c'est que je parle constamment en anglais, pas encore en allemand, mais du coup c'est vrai que des fois les mots français me manquent. Donc oui, quand j'étais ado, j'étais un peu le black sheep. Et après, quand j'ai commencé à faire des études, moi, je voulais plutôt me diriger vers le secteur événementiel, en fait, bosser dans les festivals de musique, salles de concert et tout. Donc, j'ai étudié en IUT. Et après, je suis allée dans les Vosges pour faire une licence. Et entre-temps, en fait, j'avais commencé à me faire des dreadlocks, donc ce qui ne se voit plus du tout. Mais donc, j'avais commencé juste à me faire des petites dreadlocks, des trucs en laine dans les cheveux. Et en fait, c'est depuis toujours, j'ai adoré faire des crafts, en fait, donc des choses de mes mains. Et vu que ça, c'était alternatif et tout, ben moi, j'adorais me faire tout en rose ou tout en bleu, quoi que ce soit. Sachant que ma mère ne voulait jamais que je me colore les cheveux, était anti-piercing, anti-tatouage. Donc, le fait de me faire des trucs temporaires, parce que c'était des dreadlocks temporaires, donc en fait, je les faisais et je les tressais dans mes cheveux, donc ça pouvait s'enlever. Donc, bon, côté de ma mère, elle était contente. Et moi, ça me permettait d'avoir mon style alternatif si je voulais.
Ouais.
Et donc en fait, pendant mes études, j'ai commencé à en faire pour des potes, enfin des camarades quoi. Et vu que j'étudiais la communication et le marketing, on avait souvent des sujets faites votre site internet en HTML, faites vos flyers, faites ceci, faites cela. Et en fait, sur chaque projet, moi j'avais commencé à faire ça comme si, en fait, j'allais vendre mes dreadlocks. Donc je m'étais fait un site en HTML, genre un HTML que j'avais passé des heures et des heures et des heures dessus. J'avais fait mon site en HTML.
C'était en quelle année ça?
C'était en 2010, okay. 2010-2012, mon IUT. Et j'ai imprimé mes flyers sur du papier à la fac, quoi. Et après, je les coupais à la main, je les distribuais. Et en fait, j'ai commencé avec mon super site en HTML, j'ai commencé en fait à avoir des commandes de gens qui me... Je crois que c'était de Belgique la première commande, une fille qui me disait « Oui, je voudrais commander des dreads et tout. » Je me dis « Ok. » Et en fait, vu que j'adorais faire ça, j'adorais prendre des photos, éditer les photos, et puis mettre ça en ligne, et puis évidemment faire de l'argent de poche en tant qu'étudiante. Ça a vraiment commencé comme ça. J'ai une photo de moi que j'adore, c'est j'avais 14-15 ans, et je suis sur le sol de ma chambre avec une copine devant moi, une copine derrière moi, on est en train de se tresser les cheveux en fait. Et je me rappelle de ma mère qui est venue prendre une photo, et moi j'avais 14 ans, je disais « Oh mais arrête, laisse-moi tranquille !» Et cette photo, tu vois mon regard super noir, avec ma copine derrière qui me tresse les cheveux, et moi en train de tresser les cheveux de l'autre copine devant, et je me dis « C'est vraiment là où ça a commencé en fait. » Et je me rappelle un jour, tu avais posté une photo d'un truc que tu avais fait, soit une BD ou un manga, ou un truc comme ça, et ta légende sur Instagram, c'était « Là, quand on faisait les choses, à l'époque, on ne devait pas les publier, tu sais, ou à l'époque, on ne faisait pas les choses pour les publier ou pour avoir des likes. Et en fait, c'est vraiment comme ça que ça a commencé. Moi, c'était vraiment faire des dreads pour mes copines et tout. Et donc, après mon master, en fait, je me suis dit, est-ce que je veux faire un stage dans un énième festival de musique ou est-ce que je veux essayer de me diriger un peu vers la mode? Et à l'époque, il y avait un salon de coiffure un petit peu alternatif. Donc j'ai fait une candidature et en fait, donc j'ai fait un stage de 2 mois ou 3 mois là-bas où je faisais la com et tout. Et à l'issue de ce stage, en fait, le boss m'a proposé de me garder. Pour en fait faire un apprentissage parce qu'éventuellement moi la coiffure m'intéressait, mais du coup il m'a dit je te prends pour un apprentissage, donc j'avais je crois 23 ans et tu fais donc la coiffure, enfin tu apprends la coiffure, tu fais la com et tu fais les dreads. Donc bon, si maintenant avec du recul, bon déjà encore une fois ma mère elle a pas vraiment tu vois, après faire un master de communication aller en apprentissage coiffure en France c'est pas super bien, enfin on a un peu l'idée des petites minettes de 16 ans, enfin non, de 16 ans qui savent pas quoi faire dans leur vie.
Ouais.
Donc c'est un peu l'image qu'on a, c'est un peu ce qui s'est passé, c'était des jeunes de 15, 16, 17 ans quoi. Donc moi c'était pas forcément facile. Je me suis rendu compte que la coiffure ne me plaisait pas forcément, en fait, c'était vraiment les dreadlocks, faire les dreadlocks, les poser, vraiment rencontrer des gens aussi qui étaient plus alternatifs et tout. Et j'ai appris à être humble aussi. Hein. C'est pas facile c'était pas facile comme situation.
Comment ça?
Tu sais, j'ai eu mon master de com, j'étais prête à bosser et tout, et puis d'un coup, je me retrouvais, en fait, déjà, quand j'avais des cours, c'était avec des petites de 16-17 ans qui n'en avaient rien à foutre, qui sont juste de... Tu sais, comme quand t'es à 16 ans au lycée, au collège ou au lycée,
tu
t'en fous des cours, Voilà, alors que moi, j'essayais d'apprendre des trucs pour de vrai, quoi, mais c'était pas facile. Et au niveau du salon coiffure en lui-même, bon bah voilà, c'est moi qui nettoyais les WC, c'est moi, je faisais que des shampoings, et puis les clients, c'était un salon coiffure un petit peu huppé, donc j'étais à l'apprenti, j'étais donc les clientes huppées viennent là, c'est un peu les apprentis, c'est un peu les, je sais pas comment tu dis en français, les bonnes à tout faire, ouais. Ou les, enfin, donc c'était pas facile pour moi en fait, ça a été difficile parce que je pense que j'avais ouais, enfin, c'était difficile pour moi. Peut-être vis-à-vis de mon caractère aussi, et après coup, je.
Pardon, mais en fait, ouais. je me dis, ça, il faut quand même être sacrément déter pour te dire, OK, en fait, je sors de mon bac plus 4, bac plus 5, et je décide de retourner laver les chiottes dans un. Parce que j'imagine que dans ton bac plus 4, bac plus 5, on ne dit pas, tiens, les débouchés dans ta vie, ça va être d'aller laver les chiottes dans un salon de coiffure.
Bah... quoi. Ouais, bah, moi je voyais vraiment comme une opportunité parce que c'était un très bon salon de coiffure. Vraiment, il était très très. Non, c'était pas en campagne, mais enfin dans une petite ville. Mais c'était enfin vraiment une opportunité. Il faisait pas mal de fashion et il y avait des défilés et tout. Donc j'avais vraiment pour moi l'opportunité de. Enfin, et puis même de faire des dreadlocks. En fait, même si je gagnais pas vraiment d'argent dessus. Mais cette année s'est passée et bon, à l'issue de cette année, vraiment j'en avais marre. Et je me suis dit, et puis en fait aussi à l'issue de cette année, j'ai cassé avec le copain avec qui j'étais à l'époque. Et en fait, je me suis rendu compte après coup, mais j'ai un espèce de pattern quand il se passe un gros truc de ma vie, je change de pays, je change de ville. Tu sais, c'est un peu vraiment le truc qu'il faut une distance géographique pour que je réussisse à, je sais pas, à faire le deuil, à encaisser, voilà. Donc en fait, je voulais partir au Canada. J'avais complètement oublié. Enfin, cette histoire. Je vais partir au Canada et donc je suis partie, mais vu que vraiment je voulais faire un peu tout à l'arrache, je n'ai prévu aucun visa, aucun papier. Donc je suis bien arrivée au Canada après 13 heures de vol. Et en fait, ils m'ont mis dans une toute petite salle, mais ils ont commencé à me poser plein de questions. Pourquoi est-ce que je venais au Canada? Pourquoi est-ce que j'avais des piercings, des dreads et aucun papier? Et comment j'allais gagner ma vie, etc. Moi, mon plan, c'est vraiment faire 3 mois de road trip et de backpacker et tout. Ce qui n'a pas du tout marché puisqu'ils m'ont remis dans l'avion 1 heure après. Donc je suis rentrée en France 25 heures après être partie. Donc coup énorme en me disant mais qu'est-ce que je vais faire? J'ai failli faire un service civique parce qu'il y avait un service civique. L'offre c'était faire le tour d'Europe pour faire du journalisme et un truc comme ça. Mmh. J'ai failli être prise. Je suis allée à mon entretien à Paris et tout. J'étais dans les 30 derniers, mais j'ai pas été prise. Du coup, plam, deuxième coup. Ouais. Je me suis dit, je vais faire du woofing. Donc tu sais, c'est quand tu vas bosser gratuitement et tout. Je suis allée en Irlande, mais vraiment parce que je crois que c'est le billet d'avion le moins cher que j'ai trouvé en fait. Mmh. Donc je suis allée en Irlande. Et puis en fait au lieu de faire du woofing, bah, j'ai trouvé un boulot parce que j'avais fait un peu de couchsurfing et j'avais rencontré un mec français qui m'a dit si tu veux couchsurfing, tu sais c'est quand tu vas chez les gens pour quitter bar gratuitement. Et un mec français m'avait dit il y a Google, Apple, Yahoo, Facebook, toutes ces grosses boîtes qui recrutent énormément de jeunes et de français et de parce que les Français parlent évidemment français et en fait il y a pas beaucoup de taxes en Irlande donc toutes les grosses boîtes s'implantent en Irlande pour cette raison. Et en fait, très rapidement, j'ai été du coup embauchée chez Google. Donc, j'ai bossé chez Google pendant une dizaine de mois. Donc, c'était du support technique. Tu sais, on appelait les gens qui avaient besoin de changer leur mot de passe et ce genre de trucs. Et puis, entre-temps, j'ai découvert l'Irlande, qui est un pays que j'adore vraiment. Vraiment, j'ai adoré les gens. Et puis, j'ai fait une petite pause, en fait, au niveau des dreadlocks. Et parce que du coup, après un an de salon de coiffure, j'en avais un peu marre des dreads et des cheveux. Et à côté de ça, après 10 mois à Google, j'ai fait un petit peu de woofing parce que j'avais vraiment besoin de nature et besoin de me libérer, avoir un 9-to-5, vraiment un job à temps plein. Bon, c'était pas mon délire, quoi. Et donc après, je suis arrivée. Donc pour ceux, celles du chat qui connaissent, j'étais à Cork en Irlande, donc c'est au sud. Et puis après quelques mois, je me suis installée à Galway, donc une plus petite ville à l'ouest.
Qui est trop bien.
T'y es allé?
Ouais, j'ai fait le tour de l'Irlande du Sud. Trop, trop cool.
Ouais, c'est cool, Gaulois. Ouais. Et du coup, aucune idée de ce que je voulais faire. Et puis, je me suis remis un peu sur les réseaux sociaux entre-temps. Donc, je m'étais recréé un compte Facebook. Et puis, un jour, comme ça, il y a une fille qui m'envoie un message sur Facebook et à m'envoie un truc genre salut, je fais du tatouage et tout. Donc je pense qu'en fait c'était un peu sa façon de recruter des clients, c'était elle envoyait des messages à tous les gens qui avaient l'air avec des cheveux colorés sur Facebook et puis en leur disant moi je fais des tatouages. Et je me rappelle, je me suis dit bah, moi je suis pas trop tatouage en fait. Mais je me suis dit tiens, bah, je vais lui répondre parce que de toute façon je suis à Galway, je connais personne, donc je lui ai répondu. Et puis la fille me dit ouais, je vais bientôt ouvrir un salon de tatouage et tout. Je fais ah, c'est marrant parce que moi je fais des dreads et j'ai toujours rêvé d'ouvrir un salon de dreads et tout. Et elle fait, ah, faudrait trop qu'on se rencontre. Et en fait, bah, on s'est rencontrés. Et puis ouais, comme ça, on s'est dit, bah ouais, elle avait déjà trouvé un local, on s'est dit, bah ouais, on va ouvrir. Moi, je m'étais dit, le jour où je vais ouvrir un salon de dread, il faut que je l'ouvre avec quelqu'un, en fait, pour avoir une partenaire ou un partenaire, histoire de pas être toute seule, pour avoir un peu plus de clients, et puis, bah, partager le loyer et tout. Je vais être dans une ville, éventuellement, enfin, une ville, ouais, qui va être bien, faut pas que je sois dans un truc de campagne, quoi. Faut que je sois dans une ville soit touristique où il y a des jeunes, etc. Et puis je voulais avoir évidemment assez d'argent et j'avais gagné de l'argent à Google, j'avais je pense mis de côté 6-8 000 euros, un truc comme ça en moins d'un an, donc c'était cool, j'avais pas beaucoup dépensé, donc j'avais tous ces sous de côté. Et voilà qu'on ouvre un salon. Donc en Irlande, c'était très très simple parce que tout se fait beaucoup à l'arrache, ce qui fait qu'on s'est pas trop pris la tête, on a signé un papier et puis bah voilà, on avait notre salon. Donc ça. Tout ça, c'est résumé donc dans l'article. Je sais pas si tu l'as.
Non, mais je vais le mettre.
Et donc c'est à partir de ce moment-là en fait où il y a eu quelqu'un qui avait posté dans un article de Mad, si vous faites le job de vos rêves, ouais. Partagez, expliquez votre expérience, etc. Donc moi j'avais dit bah c'était cool, je vais poster ça parce que c'est vraiment je fais le job de mes rêves que j'ai réussi à ouvrir un salon. J'avais 25 ans il me semble. Et voilà. Et tout se passait plutôt bien. J'ai toujours été très très confiante en fait dans ma façon d'être et de gérer les choses. Et en fait, on avait deux façons de voir les choses avec Johanna, donc c'est la fille avec qui j'avais ouvert. Deux façons de voir les choses assez différentes. Je pense que j'étais très bossy, j'étais très, très entreprenante et très business parce que c'est vraiment parce que j'avais bossé en com et en marketing. Pour moi, je savais comment faire les choses et je voulais vraiment en fait monter une marque. Et elle, c'était plus bon. Bah, je viens, je fais du tatouage et puis. Puis bye quoi. Donc en fait ça a un peu clashé parce que bon bah évidemment nos caractères allaient pas et puis bon c'était au final même ses clients venaient vraiment pour le tatouage et moi mes clients venaient pour les dreads et au final ils se mélangeaient pas trop donc c'était pas non plus super super intéressant pour ça.
Je pense qu'on peut faire une petite pause association.
Ouais, pardon.
Non mais je pense qu'il faut qu'on fasse une petite pause association pour parler ouais. De comment faire pour bien s'associer.
Ouais.
Je pense que c'est un vrai vrai truc chez plein de jeunes entrepreneurs, de moins jeunes d'ailleurs, mais souvent c'est un truc que tu prends un peu trop à la légère en fait quand tu démarres ouais. En te disant bah c'est pas très grave en fait on se met ensemble, on monte le business ensemble, mais en fait ça peut souvent amener dans des situations qui sont inextricables en fait où tu finis par bah ne plus être d'accord comme tu dis c'est non tu m'as dit ça avant qu'on démarre, tu m'as dit c'est comme dans un couple
ouais.
Et je suis tellement
ouais,
d'accord
ouais.
Avec ça.
Faites un contrat, c'est difficile parce que enfin, nous, on l'a pas fait. Clairement, on parlait déjà de la tapisserie qu'on voulait faire avant de... Enfin, on s'était dit, bon, on partage tout par deux, tu vois, ce qui était logique parce que, bon, voilà, on avait juste, en gros, un loyer et des factures. Mais la façon dont, en gros, ça s'est terminé parce que déjà, ça a commencé à chauffer entre nous, vraiment, on voyait bien qu'on s'entendait plus. Et puis, un jour, elle a trouvé... une excuse débile, un truc qui s'est passé dans un des enfin à côté, et elle m'a dit si tu pars demain, sinon moi je dis au landlord que c'est toi qui as fait ça et tout. Enfin pardon, je dis au proprio que c'est toi qui as fait ça et enfin elle était établie, elle avait un enfant, elle me dit moi je veux pas risquer ma vie parce que quelqu'un a trouvé de la weed dans les WC. En fait, je veux dire que c'est toi et ton copain et si c'est et vous partez quoi. Et en fait, d'un côté, ça m'a un peu soulagée parce que je me dis bon, bah au moins je pars. J'ai réussi à casser le contrat avec le proprio et à partir sans un peu comme une voleuse, que c'était horrible. Je me rappelle avec un, enfin c'était vraiment dur quoi. Et ça c'était 2 semaines après que l'article dans Mad soit paru, un truc comme ça. Donc c'est marrant parce que l'article s'est fini de façon assez positive et 2 semaines après c'était pff, tout s'était cassé la figure. Mais,
plus ou moins la vie d'entrepreneur, hein, d'ailleurs. C'est-à-dire que
ouais.
Tu passes par des très hauts et des très bas tout le temps. Quoi.
Ouais. Mais comme tu dis, un très très important de bien de savoir s'entourer et puis en fait de faire confiance avec les gens qui t'aiment, mais en fait vraiment passer par le papier, faire des contrats. Un truc que j'avais lu, bah, après coup, c'est vraiment écrivez la façon dont si vous avez besoin de sortir en fait de votre entreprise, que vous êtes avec un partenaire, vous avez besoin de sortir. Mettez clairement la façon dont vous voulez sortir. Est-ce que vous voulez sortir et reprendre votre part? Est-ce que vous voulez sortir et laisser tous les papiers à l'autre personne. Est-ce que vous voulez partir et récupérer des meubles dans le salon? Parce que moi, il y avait des meubles que j'adorais, que j'avais payé très cher et que je voulais récupérer, en fait. Comment est-ce que vous... Qui garde le logo? Qui garde le nom? Enfin, ça, c'était des questions. La fin, ça s'est terminé de façon tellement abrupte. C'était horrible. J'avais un niveau de stress qui était hyper, hyper haut.
Mais on a tendance à
terminer dans la créativité.
Ouais. On a tendance à pas vraiment y réfléchir quand on se lance parce qu'on pense pas forcément au scénario du pire et c'est un peu normal en fait. Mais c'est vrai que ça c'est un truc que t'apprends une fois que tu fais l'erreur, après tu le fais plus quoi, tu le fais plus la deuxième fois. En fait, c'est ce que tu décris là, je sais pas trop comment ça s'appelle en Irlande, mais en France ça s'appelle un pacte d'associés où effectivement en fait tu décides de, tu mets tout dedans, tout ce que tu peux faire et bah tu vois typiquement avec mon associé, on n'avait pas fait de pacte, lui et moi. Et bah quand il est mort, de façon très soudaine comme ça, en fait, on n'avait pas mis ça sur le papier noir sur blanc en fait. Et en fait, heureusement que j'ai eu la possibilité de pouvoir racheter ses parts à ses enfants et que ses enfants ils étaient très cool avec tout ça, tu vois. Mais ça aurait pu vraiment partir en sucette en fait à ce moment-là. C'est sûr que tu fais pas très attention. Bonjour les gens qui viennent d'arriver sur le chat. Salut à vous. donc tu quittes un peu comme une voleuse. J'imagine que c'est pas forcément évident de te dire bah ok, j'ai investi énormément de temps, d'argent, d'énergie dans cet endroit et tu dois partir du jour au lendemain. Ça doit être
Bah, c'était très dur, hein. C'était vraiment un deuil. Enfin, là, vraiment, ça fait longtemps que c'est vraiment derrière moi, quoi. Donc, mais pendant facilement 1 ou 2 ans, vraiment, j'avais des pulsions d'anxiété à moitié de ça. Rien que de me balader dans la rue. J'ai évité pendant très très longtemps Galway. J'habitais en périphérie. Et puis même les réseaux sociaux de cette personne, ça me triggerait. Je ne sais plus comment tu dis en français, mais ça me vraiment, et je pense que c'est à ce moment-là que j'ai découvert l'anxiété. Et en fait, oui, d'ailleurs, c'est à ce moment-là que j'ai découvert l'anxiété, je me rappelle, où sur la fin, j'allais au shop le matin et je sentais une boule au ventre qui me rappelait les boules au ventre de l'école quand j'étais enfant ou ado, tu sais. Et là, je me suis dit, waouh. C'est là, à partir de ce moment-là, où je me suis redit, ok, en fait, je crois que je sais ce que c'est l'anxiété dont tout le monde parle maintenant. Et en gros, j'ai déménagé en périphérie. Il n'y a pas eu de drama public, il me semble. Enfin, il me semble que du coup, j'étais beaucoup moins sur les réseaux sociaux, mais il n'y a pas eu de drama public ni de son côté ni du mien. Et puis, je pense qu'au niveau de ça, c'était, il n'y a pas eu trop de contacts après, donc ça allait. Et en gros, quelques mois après, j'ai redéménagé sur Cork, qui était vraiment ma ville de prédilection. Et puis quelques mois après encore, j'ai dû commencer à regarder en fait sur le site d'annonce. Un peu par hasard, tiens, si je regardais s'il y a des locaux en fait, des propriétés quoi à louer.
Par hasard.
Tu sais, c'est le genre de truc que tu te dis, moi je le fais innocemment, mais tu sais très 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 bien que au fond de ta tête, tu le fais pour une raison.
Bien sûr.
C'était très clair pour moi, mais je me le cachais. Et en fait, j'ai trouvé donc un local où je suis allée visiter. Je me rappelle le jour où je l'ai visité. J'ai regardé par la fenêtre et c'était un ancien magasin d'informatique, donc il était tout en long. Avec des étagères partout et en fait j'ai appelé le mec de l'agence, je fais, bon en fait je voudrais annuler parce que ça me correspond pas du tout. Et puis le mec me dit bon, attendez, je suis sur la route, je vous fais au moins visiter. Et en fait il m'a fait visiter, bon j'étais un peu bon, c'est pas top et tout, mais il y avait 2 salles en fait. Et après coup, quand je suis rentrée chez moi, je me suis dit, en fait, ça pourrait être cool parce que je pourrais avoir une salle publique, un vrai salon de dread, de coiffure, et puis un atelier où derrière, je peux vraiment faire tout ce que je veux. Et d'ailleurs, juste pour les gens du chat, du coup, si ils veulent voir, tapez juste dread synthétique sur Insta ou sur Google et vous allez voir un peu le... Parce que c'est très, très différent des dreads Bob Marley. Les gens, quand ils pensent dread, ils pensent toujours Bob Marley, mais des dreads synthétiques, c'est un petit peu différent. Ça implique beaucoup de création manuelle, en fait, et c'est vraiment ça qui me plaisait.
Ok.
Et donc j'ai refait mon propre salon et là c'est parti, ça s'est très très bien passé vu que j'étais aux commandes, j'ai pu faire ma marque en fait comme je le voulais vraiment et j'ai adoré décorer mon salon, mettre tout en place et Cork c'est une grande ville, pour en Irlande c'est 300 000 habitants je pense et du coup il y a un très très bon réseau donc j'ai passé 3 ans comme ça très très bien et sur la fin du coup j'ai eu une apprentie et j'ai eu 2 apprentis et une employée sur la fin.
Et t'as réussi à gagner ta vie pendant toutes ces années-là en faisant des dreads, en vivant de ta passion.
Ouais. J'étais auto-entrepreneur et je faisais mes dreads. J'ai eu une aide, il me semble, la première année parce que j'avais rempli tous les papiers et tout. Je crois que j'avais une aide de 600 euros par mois. Mais non, et puis vu que j'ai toujours fait des dreads entre temps, c'est vrai que j'avais mon portfolio qui était prêt, j'avais le site internet pour... qui était plus en HTML pour le coup, qui était un vrai site bien fait et tout. Mais c'est vrai que j'avais un portfolio vraiment bien fait. Et en fait, les dreads en Irlande, en fait, en Irlande, je pense que quand il y a des tendances, il y a beaucoup de tendances de faux, des fossiles, des faux ongles, des faux, un peu des faux tout. Et du coup, les faux cheveux et les dreads, c'était vraiment une tendance qui marchait. Et quand il y a une tendance, les filles, c'est pas réservé aussi l'alternatif et la mode est beaucoup plus ouverte, j'ai envie de dire. Il y a beaucoup plus de personnes, entre guillemets, normales qui vont se teindre les cheveux et avoir un peu un look rock'n'roll, même si c'est des personnes qui sont pas vraiment rock'n'roll. Mais c'est vrai que c'est assez ouvert pour ça, ce qui fait que j'avais des clients de tout âge et puis de tout look et puis, enfin voilà, de tous les styles, quoi. Donc ça, c'était vraiment super cool.
T'as fait ça pendant 3 ans?
Ouais, à plein temps, ouais.
Comment t'as réussi à te faire connaître dans la ville? C'était un peu du bouche à oreille, c'est ça, j'imagine?
Beaucoup de bouche à oreille. Comment?
Les réseaux aussi, pardon.
Oui, les réseaux, beaucoup de bouche à oreille. Et en fait, parce que du coup, j'avais un look qui était beaucoup plus, entre guillemets, extravagant, tu vois. Et en fait, en Irlande, les gens se parlent, les gens sont très gentils, c'est pas un cliché, c'est vrai. Les gens se parlent beaucoup naturellement. Et c'est vrai qu'en fait, partout où j'allais, les gens étaient, oh, ils sont cool, vos cheveux, j'aime beaucoup, tout ça. Et en fait, ben voilà, je perdais jamais une occasion de donner ma carte. Et ça, c'est vrai que ça m'a permis de m'ouvrir beaucoup de réseaux aussi. Mais le bouche à oreille et le fait qu'il y avait pas vraiment de personnes qui faisaient des dreads à l'époque. Et maintenant, il y a peut-être un ou deux magasins, mais sinon un espace, un vrai dreadlock shop, ça c'était assez rare. Et en fait, je pense que ça a commencé à se développer, mais je sais qu'à l'époque, quand j'avais commencé en 2010, quoi, il y a quasiment 10 ans, les dreadlock shops, ça n'existait pas. C'était vraiment très 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 niche.
Ok, t'as fait ça pendant 3 ans. Comment ça se...
10 ans et 3 ans en vrai full time. Enfin, quand j'avais mon shop, c'est 3 ans, quoi. Full time. Et sinon, bah, si vraiment on part du moment où j'ai commencé à faire ça sur mon lit, ça faisait 10 ans, quoi. C'est ouf. Et c'était vraiment un side project quand j'ai commencé. C'était vraiment un truc de hobby de faire ça pour moi. Et puis après, pour les copines. Et puis après, en tant qu'étudiante, bah, juste pour gagner un peu d'argent. Et puis après, c'est devenu mon, tu sais, un peu comme toi et tes podcasts. En ce moment, c'est un peu le truc que tu fais. Tu dis pas, c'est mon full time job. Tu dis, bah, c'est le truc que je fais. Bah, moi, les dreads, c'était toujours le truc que je faisais, quoi. Là où t'en as qui vont faire de la musique ou de la photo, moi, c'était les dreads.
Et t'as réussi à en faire ton métier, quoi. Et ça, c'est ouf.
Ouais.
Qu'est-ce que tu disais à la petite Caroline de 14 ans qui était en train de regarder mal sa mère qui était en train de la prendre en photo?
Ah ben je me rappelle de deux choses. La première, c'est un jour je faisais ça sur mon lit et ma mère me disant oh, parce que je lui disais probablement oh laisse-moi, je suis occupée, elle me dit oh t'es dread, tu vas pas faire ça plus de 6 mois et tout. Je me rappelle clairement qu'elle m'a dit ça. Et la deuxième chose, je me rappelle quand j'étais petite, je me rappelle, je disais à ma mère, est-ce que j'habitais dans une ville très très balnéaire sur la côte. Il y avait un marché avec tous les Parisiens qui venaient du coup pour acheter leurs petits trucs du marché. Et j'avais dit à ma mère, est-ce qu'on peut acheter un stand comme ça, je vais aller vendre mes petits bijoux en perles. Et très très tôt, j'avais cette envie de faire des choses de mes mains et de les vendre. Ça, c'est un des souvenirs les plus anciens que je me rappelle.
Et ça devient d'où, tu penses?
Aucune idée. J'ai toujours été très créative au sens terme, vraiment. Tu sais, faire des bijoux, des petits trucs de pacotille avec les rouleaux de papier toilette quand j'avais 10 ans, faire des porte-crayons, faire des cendriers en argile, enfin c'est, j'ai toujours fait ça.
Mais tu voulais aussi gagner de l'argent avec, ce qui est pas forcément
oui,
ça va pas forcément avec.
Non, je sais pas d'où ça vient, parce que mes parents travaillent dans le milieu hospitalier. Je pense pas qu'il y ait d'entrepreneurs dans la famille, donc j'ai aucune idée d'où ça vient, mais j'ai toujours eu ce truc de je vais faire des trucs jolis et je vais les vendre aux gens qui veulent et je vais gagner de l'argent comme ça.
T'as pas souvenir d'un déclic comme ça? Tu t'es dit, ah, non, c'est possible.
Non, à part cette histoire de marché où je me disais, bah, je faisais plein de petits bijoux en perles et puis et je me disais, je pense que les stands du marché très colorés avec plein de trucs qui ressemblent à des fois ça venait de Chine probablement, mais souvent c'est des choses faites à la main et je sais pas, ça devait me plaire.
Ok. Est-ce que t'es allé vendre tes dreads quand t'étais ado, t'es allé vendre tes dreads sur le marché ou pas?
Non, mais bah du coup en 2016 et 2017-2018 j'ai fait des festivals et là c'est vachement bien. Niveau financier, ça rapporte énormément d'argent, c'est énormément de boulot, mais c'était hyper hyper bien pour finir du coup en beauté.
Il y a Foncé sur le chat qui dit je trouve ça tellement courageux. Je suis d'accord avec toi.
C'est vrai que j'ai jamais trop réfléchi, que ça a toujours été le truc que je faisais sur le côté en fait. Enfin, je pense que c'est ça en fait. Ça m'a donné le courage de me lancer parce que je me dis, bah, en fait, j'ai pas à apprendre quelque chose de nouveau, je sais. Et j'ai confiance en moi au niveau de ce que je fais au niveau des dreadlocks. Mais je pense que je me suis, ouais, je sais pas. Je pense qu'il faut pas trop réfléchir des fois avant de se lancer. Parce que évidemment, si j'avais écouté, les gens, enfin, même tout le temps, mais tout au long de ma carrière, les gens, quand je leur disais je fais les dreadlocks, en fait, les gens ne m'ont jamais prise au sérieux, mais jamais. Et en fait, j'ai fini par tourner ça en disant, bah, j'ai un, surtout quand j'avais mon shop, du coup, c'était beaucoup plus facile à dire de dire oui, bah, j'ai un salon en ville, en fait. Et, mais les gens, ils ont jamais considéré que ce que je faisais, c'était un business, qu'il y avait de la réflexion derrière, qu'il y avait une mise en place, qu'il y avait pas des stratégies, qu'il y avait, etc. Les gens, c'est toujours, ah, t'es, un jour, on me l'a dit, tu, ah, tu t'es sur ton sofa toute la journée en train de fumer des joints, jamais. Non, j'ai un business. C'est
pas la meilleure façon de faire tourner son business. Hein.
Non. Mais ça, c'est toujours été un petit peu entre les blagues douteuses. Tu sais, tu vas m'en faire. Tu sais, quelqu'un qui a pas de cheveux. Tu sais, ça, j'ai eu toutes les blagues hein, où les gens qui font tu fais des dreads, mais tu fais des dreads avec tous les poils. Enfin. Le nombre de blagues que j'ai eues, vraiment douteux, hein, très
classe.
Très, très,
et j'allais te demander justement, qu'est-ce que ta mère, quand tu finis par lancer ton business et que tu as ton propre salon et que ça fait 3 ans que tu es en train d'en vivre, qu'est-ce qu'elle en dit ta mère, donc presque 10 ans plus tard?
Ah, bah, ils sont venus me voir et puis ils étaient contents. Ils m'avaient ramené des meubles, des beaux meubles de la maison qu'ils avaient pour m'aider à meubler un petit peu mon shop. Ils m'avaient aidé à mettre quelques miroirs et tout. Non, très fière et puis très contente de me voir évoluer. Donc,
tu en as jamais reparlé à ta mère?
Si, j'ai dû un petit peu, mais c'est vrai que dernièrement, du coup, là, on en parlera plus tard, mais j'ai un vrai boulot d'employé. Et j'étais un peu en crise dernièrement. Et du coup, je parlais de ça avec elle. Et puis, elle me dit, oh, tu sais, de toute façon, un boulot, c'est pour gagner de l'argent, c'est ce qu'il faut que tu fasses. À côté, c'est pas très important. Et je dis, mais comment tu peux me dire ça? Tu sais que je veux vivre de ma passion et tout. Et puis elle me disait, non, faut que t'aies un boulot, de toute façon, faut que tu gagnes de l'argent. Je dis, bon, ok.
Ouais.
Mais bon, c'est mon petit frère aussi est dans des trucs créatifs. Donc, c'est vrai qu'ils ont compris, un peu par la force des choses que, voilà. Et puis on a une génération différente aussi. On peut se lancer dans des projets plus fous et ça peut marcher. Et on n'aura jamais des carrières de 40 ans dans la même boîte. Et puis si on a l'opportunité de faire ce qu'on aime, ben faut le tenter et puis c'est important.
C'est sûr, quand moi j'ai quitté mon CDI chez Pimki, mon père il m'a regardé pour monter Mademoiselle à l'époque. Mon père il m'a regardé avec des grands yeux quoi, en me disant mais qu'est-ce que tu vas faire à quitter un CDI là où t'es bien et tu gagnes ton argent sûr pour monter. Ouais. Il savait même pas ce que c'était quoi, tu vois. Il disait mais tu vas gagner ton argent comment? J'étais là compliqué.
Et je pense que j'ai toujours eu la volonté d'avoir la sûreté à côté, c'est-à-dire que quand j'ai ouvert mon shop, j'avais vraiment assez d'argent de côté. Je m'étais dit bon, si jamais ça marche pas, bon, je peux quand même payer quelques mois de loyer à vide si jamais ça marche pas. Et j'avais toujours cette et puis même au niveau de mes prix, de mes dreadlocks et tout, je savais très bien que je pouvais faire de l'argent. Bon, après quand j'avais le loyer, des factures, c'était beaucoup plus dur, mais je savais que je pouvais faire rentrer de l'argent comme ça, quoi.
Il y a Foncé qui dit, en tant que parent, ils ont surtout peur pour vous, ce qui est normal après tout. Alors, oui et non, c'est-à-dire que je pense que c'est normal que tes parents ont peur. Enfin, en tout cas, je pense qu'on a à peu près le même parcours. Après, pour moi, l'un des trucs qui est très important quand tu lances ta boîte, c'est de surtout pas te laisser influencer par le regard des autres, en fait, parce que les gens systématiquement, en tout cas la plupart des gens, pas tout le monde, mais la plupart des gens ont tendance à projeter leur propre peur sur toi.
Ouais, c'est clair.
Et ça, c'est un truc avec lequel il faut faire très attention, quoi, je trouve.
C'est un truc que j'ai remarqué. En fait, donc quand j'ai vendu mon shop, donc ça s'est fait très rapidement, mais en fait, j'ai décidé de partir en Autriche. En fait, vraiment on a lancé la fléchette sur la carte. C'est vraiment comme ça que ça s'est fait. Et la première chose que les gens me disaient tout le temps, c'est mais est-ce que tu parles allemand? Qu'est-ce que tu vas faire? Et en fait, je me suis rendu compte que oui, les gens paniquaient à l'idée de eux. Ils s'imaginaient pas du tout faire ça. Donc ils se demandaient comment je pouvais le faire. Mais moi, je me dis, bah, je sais pas, moi, je m'en fous. Moi, je veux juste partir d'Irlande. Sur la fin, j'en avais marre. Et en fait, c'est là que je me suis dit, oui, en fait, les gens, ils projettent toujours, toujours, toujours leur peur. Et ce qui, eux, vont les stresser, ils vont t'en parler. Alors que moi, ça me stressait pas de pas parler allemand. Je parle malheureusement toujours pas très bien allemand au bout de 2 ans. Bon, c'est un peu stressant, mais c'est pas ce qui m'a bloqué, quoi.
Un des trucs que t'as dit aussi, c'est que t'as dit, et je pense que c'est vraiment un truc très important quand tu lances ta boîte, c'est que t'as dit que t'avais une forme de, alors je sais plus quel terme t'as utilisé, mais une forme de naïveté en fait par rapport au lancement et par rapport au fait que ça, t'étais même pas sûr que si ça pouvait marcher ou pas, mais juste t'avais la passion et tu t'es dit bah forcément ça va marcher quoi.
Ouais, je pense que c'est important en fait de, d'être organisé. Et d'ailleurs j'avais acheté un bouquin qui s'appelle Business for Punk, qui est de les gars qui ont fait la marque de bière, je sais plus, Brewdog Factory, Brewdog.
Ah Brewdog. Ok, ouais Brewdog, ouais.
Ils ont fait un bouquin, enfin un des deux créateurs a fait un bouquin qui s'appelle Business for Punk. Et je me rappelle, j'étais dans la librairie et du coup il y avait ce bouquin là, il avait l'air cool, et je me dis bon je vais acheter ça. Et c'était un bouquin très très bien pour justement en fait apprendre à monter un business sans se prendre la tête à faire des business plans et des enfin des toute la paperasse qu'il faut quoi. Je suis pas hyper organisée. Ouais. Je fais confiance à mon organisation, mais je suis pas une personne qui fait des papiers, qui fait qui réfléchit sur un plan à long terme et tout quoi. Je savais que mon truc de dread, je savais que je voulais le faire et que je voulais le mener à terme, mais bon, j'avais pas forcément de plan pour faire ça jusqu'à la fin de ma vie quoi.
Ok. Donc Business for Punk, c'est de James Watt. Si vous voulez chercher, je vous.
Très très bon livre que voilà. Je conseille aux gens qui en fait ont envie de se lancer dans un. Même, t'étais pas obligé d'avoir l'idée d'un business et de savoir exactement ce que tu veux faire, mais c'est un bouquin qui décomplexe un peu, je trouve.
Et puis t'es pas obligé d'avoir un business alternatif.
Exactement, oui, c'est ça. C'est plus for punk, c'est plus l'idée de.
Sortir du cadre, c'est ça.
Exactement.
Ok, pardon, je t'ai coupé.
Donc après 3 ans, pour finir, après 3 ans dans ce shop, j'ai vraiment. Donc là, c'était en 2018. J'ai eu l'impression que la boucle était bouclée dans le sens où mon magasin, vraiment, mon shop était très, très joli. Enfin, les gens, ils rentraient dedans. Il était fini. En fait, j'avais fini toutes mes peintures, tous mes meubles. Vraiment, j'avais plus d'addition à faire pour moi. J'avais mon apprentie qui était prête à bosser. Je venais de prendre une autre apprentie et j'avais donc une fille qui faisait des dreadlocks sur Cork. En fait, avant que, quand j'ai commencé à avoir trop de boulot, je l'ai contactée. Je lui ai dit, bah voilà. Si tu veux, tu peux venir bosser avec moi, etc. Et puis on a mis en place un système. Elle était, il me semble, si je me rappelle, moitié auto-entrepreneur, moitié bosser avec moi. Et quand l'année 2018, donc on a fait les festivals en Irlande, et puis je finissais avec un show sur Londres en septembre, il me semble. Donc mon août, septembre, octobre, un truc comme ça, les mois étaient assez assez busy. Et quand on a fini avec le festival, avec le fashion show sur Londres, en fait, je suis rentrée et j'étais exténuée. Je me suis dit, ça y est, je veux finir l'année tranquille parce que tous les événements sont passés. On a fait assez d'argent. J'ai fait mon gros truc sur Londres et tout. Et je pense que la pression est retombée. Et je pense que 2 semaines après ou un truc comme ça, j'ai eu ce truc de me dire, je crois que j'en ai un peu marre en fait. Et c'est dur. c'est pas facile, encore une fois, d'avoir ce genre de pensée. Parce que tout n'était pas rose tout le temps, même si j'ai adoré être auto-entrepreneur, évidemment, il y a des jours, t'en as marre. Et vraiment, ça te fait te poser des questions, parce que tu te dis, mais attends, c'est ce que j'aime faire. Si j'arrête ça demain, je n'ai rien d'autre. Qu'est-ce que j'aime faire à part... Enfin, j'aime plein de trucs, mais je me dis, je vais pas retourner dans un boulot normal et tout. Et je me rappelle très très bien de ce jour, je crois que c'était un jeudi soir, je me suis assise sur mon lit et j'ai tapé « How to quit your business » sur Google. Et je me suis trouvée tellement bête de me poser cette question et de la taper sur Google. C'est vraiment, tu sais, quand tu sais pas quoi faire et que t'as une question, tu tapes la question sur Google, comme quand t'écris « Que faire quand je m'ennuie ?» sur Google. Là, j'ai tapé cette question en me disant « Mais qu'est-ce que je fais ?» Et en fait, j'ai lu plein de témoignages de gens qui en parlaient, comment tu quittes le business que t'as créé. Et en fait, pour beaucoup de gens, ça peut sembler facile de dire « Bah, tu vends. » Mais déjà, je savais même pas que je pouvais vendre, en fait. C'était un truc... ça m'était pas passé par la tête et je m'étais dit, mais qui va acheter mon business de dread, tu vois? Et puis, en fait, se dire, mais comment tu quittes? Qu'est-ce qu'il faut faire? T'as créé quelque chose, t'as une grosse demande parce que t'as énormément de gens qui veulent ce que t'as des employés, t'as un endroit super beau que t'as créé et là, tu veux tout arrêter, ben, qu'est-ce que tu fais, en fait? Donc, c'est pas facile.
Pourquoi tu veux arrêter au fond? Avec le recul?
Je pense que la boucle était bouclée. Il y avait des listes des gens qui disaient il est temps d'arrêter votre business quand vous physiquement vous ne pouvez plus, mentalement vous ne pouvez plus, si vous êtes si vous n'avez plus d'argent, etc. Je pense que mentalement ça commençait à être dur parce qu'en fait je commençais à un peu en avoir marre. Le fait d'avoir des employés, ça devenait dur aussi parce qu'en fait c'est dur quoi. Faut gérer ces personnes-là. En plus on s'entendait très bien, mais du coup faut parler d'argent tout le temps. C'était pas facile. Et physiquement aussi, en fait, à force de faire des dreads, je pense un peu comme les coiffeurs, cette partie-là du bras devenait douloureuse. Et puis ouais, enfin les réseaux aussi, les réseaux étaient trop, ça devenait trop, tu sais, Facebook, Instagram, même si j'adorais faire ça, en fait, il y avait des fois où j'avais envie de plus être présente sur les réseaux, mais en fait, bah quand t'as ton business, il faut être présente sur les réseaux, et c'est vrai que j'avais envie de faire un break de ça aussi, quoi. Et puis même en général, bah faire un break, ne plus avoir à penser à ce business tout le temps, puisque même si c'était ce que j'adorais, au bout d'un moment, bah il faut t'as envie de penser à autre chose, quoi, t'as envie de prendre des vacances, t'as envie de faire un break et de ouais.
Et donc, tu prends cette décision de quitter, de quit your business, de revendre ton business.
Ouais, un très, très, très bon ami à moi m'a dit « Pourquoi tu n'essayes pas de le vendre ?» Et en fait, je connaissais une dame africaine qui avait un salon de coiffure dans le coin, qui m'avait un petit peu hébergé quand j'avais besoin d'un endroit pour faire les dreads, et qui aimait bien ce que je faisais, etc. Et donc, en fait, très, très rapidement, j'ai réussi à établir un dossier de vente. Donc, en fait, en un mois, vraiment, la décision s'est prise, c'était en septembre, j'ai commencé à avoir ça. Je pense qu'en octobre, j'ai fait un petit dossier, quoi, de 4-5 pages sur Word. Pourquoi faut acheter mon business, tu vois? Pourquoi est-ce que tu vas faire de l'argent avec ça, et pourquoi est-ce qu'il faut, quoi? Enfin, pourquoi je le vends? Donc ouais, elle l'a annoncé à mes employés, à mes clients. Enfin, et puis en même temps, j'étais hyper super super excité, enfin pas excité mais excited, parce que du coup avec mon copain, donc qui est polonais, on s'est dit bah on va déménager ensemble, on va partir d'Irlande. Ça faisait 5 ans. Une des raisons aussi, c'était l'Irlande. S'il y a des gens du chat qui connaissent, vivre en Irlande, donc c'est très gris, très pluvieux, il y a pas beaucoup de saisons, en fait, ce qui fait que c'est toute l'année, c'est un peu une même ligne, ce qui fait que c'est difficile au niveau du temps. En fait, on s'en rend pas compte, mais les saisons, ça rythme, hein. C'est bête à dire, mais quand on vit sans saison pendant 5 ans, il y a pas vraiment d'été, il y a pas vraiment d'hiver, il y a pas vraiment de, c'est un peu toujours la même chose. Donc on avait envie de partir d'Irlande, et en fait je pense que le fait d'avoir on était ensemble avec mon copain depuis 6-7 mois, donc c'était assez nouveau. Mais le fait d'avoir quelqu'un, en fait, pour m'aider à pas à prendre cette décision, mais de me dire bah je vais avoir quelqu'un avec qui je vais voyager autre part, je peux commencer quelque chose d'autre part, c'était bien. Et donc pendant en novembre-décembre, en fait, donc j'ai vendu énormément de choses, en fait, de mon appart, du shop, etc. Parce que j'avais évidemment, j'essayais de financer aussi mon déménagement, donc j'ai réussi à faire un peu le tri dans mes affaires. Et puis voilà.
Mais c'est très rapide.
Ah oui.
J'ai l'impression que un peu comme ton business d'avant, en fait, tu décides à un moment donné.
Je suis très très impulsive. Et quand il y a quelques jours, tu m'as dit est-ce qu'on veut faire un Twitch, je savais pas trop quoi répondre parce que je me dis j'aimerais bien, mais en même temps, tu sais, c'est pas toujours facile. Et puis j'ai écouté le podcast que t'as fait avec Hugo, et puis au milieu du podcast je me dis oui, moi aussi je veux faire un Twitch avec Fab. Et du coup je suis venue sur l'ordi, j'ai tapé oui, on se voit, et puis je suis repartie. Et en fait je suis très impulsive dans beaucoup de choses, ce qui ne veut pas dire je réfléchis, hein, avant de prendre des décisions, mais en même temps j'ai envie que les choses se passent vite. Et là, quand il me semble que t'as pris un an pour vendre MAD, donc ouais. c'est en même temps, c'est un business qui a 15 ans, qui a énormément d'employés, donc c'est pas vraiment la même chose. Mais non, moi j'avais besoin que ça se fasse vite, en fait. Et j'avais quelqu'un qui était prête. Donc après, je l'ai vendu 10 000 euros. Donc je sais pas si c'est cher, pas cher. J'ai vraiment eu de la difficulté aussi à établir un prix sur un business. C'est un truc qui c'est très très dur à faire, je pense, parce que j'avais pas ma tête dans les comptes tout le temps. Donc je savais que c'est un business qui rapportait de l'argent, mais bon, c'était pas non plus. C'était pas Dior, quoi. C'était pas non plus un petit business qui faisait pas de chiffre d'affaires. Donc c'était difficile d'établir un prix. En même temps, je me suis dit bon, moi je veux vendre vite, je veux récupérer de l'argent pour me faire une année sabbatique. C'était mon idée. Et puis voilà, la personne a accepté ce prix, et puis c'était bon. Pardon.
Non, mais j'allais dire, je pense qu'il n'y a pas de bonne. Alors, il y a plein de façons de calculer le prix d'un business, en fait, mais il n'y a pas de bon prix. Le bon prix, c'est toi qui le décide, en fait. Tu vois, si à un moment donné ça te convient à toi, c'est cool.
Ouais, mais c'est vrai que c'était dur aussi. Je m'étais dit peut-être la valeur réelle, c'est peut-être 25 000 euros, parce que si cette personne fait les choses bien et arrive à avoir le même nombre de clients, etc., cette personne peut vraiment faire beaucoup d'argent dessus. Mais après, je me suis dit, mais en fait, enfin, tu sais, j'avais pas vraiment de comptable à l'époque, ni quoi que ce soit, et voilà, mon plan, c'était vraiment de vendre rapidement, sans prise de tête, et ouais.
Mais tu disais que t'avais pas vraiment en tête, t'avais pas le nez dans les chiffres, mais malgré tout, tu voulais quand même en faire un business. C'est un peu contradictoire, non?
Bah oui, mais c'est vrai que j'ai jamais. Moi, j'avais des chiffres très très ronds dans la tête. Je savais que mon loyer, il me semble, à l'époque, c'était 800 euros, mon loyer de mon shop. Avec les factures et tout, je me disais, bon, 1000 euros qui partent dans les factures et le shop, 1000 euros pour mon appartement de chez moi. Donc, je me dis, faut tous les mois, il faut que je fasse plus de 2000 euros pour en gros avoir payé mes factures et puis me faire un chiffre d'affaires. Et puis, en fait, j'investissais beaucoup. Donc, je pense aussi que si j'avais. Un truc qui m'a aidé en fait, c'est ne pas me focaliser sur l'argent pendant que je faisais ce business-là. Et je pense que c'est vraiment, je l'ai fait parce que j'adorais ce que je faisais, j'adorais mes clients et j'étais contente de pouvoir réinvestir tout l'argent que je gagnais vers ce business-là et faire des shows et faire des festivals et tout. Mais c'est vrai que je pense que des fois, je me dis si vraiment je faisais mes comptes, je sais pas si financièrement c'était viable. Mais moi, je me suis, ça m'a permis de vivre et de faire ce que j'aimais. Puis à côté de ça, j'avais pas une vie extravagante où je dépensais énormément non plus. Donc en fait, moi, je dépensais quand j'avais besoin de m'acheter des trucs et puis j'investissais dans le business et je me faisais plaisir et j'avais pas l'impression d'être en perte, quoi. Je pense pas que j'étais en perte. J'étais pas non plus en super de gagner des milliers et des cents, mais
Ok.
Et c'est vrai que je me suis jamais vraiment focalisée sur l'argent, quoi.
Donc, en un mois, les clics, les claques, hop, ça dégage.
Ouais.
T'as pas la sensation que ça va un peu vite en termes de gestion du deuil?
Ah non, mais le deuil, il s'est fait après. Là, on était tu sais, dans l'impulsivité et l'excitement
Ouais,
du moment. Tu sais,
excitation.
excitation du moment parce qu'après le nouvelle ouais tout quitter comme ça et puis déménager en Autriche pays que je ne connaissais pas du tout et la raison pour laquelle j'ai si ça tenait qu'à moi j'aurais adoré aller en Suède ou en Norvège ou en Finlande, j'adore les pays nordiques ou en Espagne. La raison pour laquelle on n'est pas allé dans le nord, c'est qu'en fait faire une année sabbatique dans les pays du nord, c'est probablement pas la décision la plus intelligente parce que c'est très très cher.
OK.
Donc en fait, je voulais vraiment vivre un an sans bosser ou sans vraiment gagner d'argent. Et j'aurais adoré aller en Espagne. Du coup, après coup, c'est probablement mieux avec la gestion du Covid et tout. C'est probablement bien de ne pas avoir été en Espagne. Et mon copain ne parlait pas espagnol et du coup. Vienne, vu qu'il est polonais, donc il connaissait un petit peu Vienne, vu que c'est pays voisin de la Pologne. Moi, je ne connaissais rien du tout de Vienne. J'avais jamais eu fait l'attraction, l'envie de googler Vienne, Autriche, quoi que ce soit. Et je me suis dit, en fait, c'est le changement le plus illogique que je puisse faire. Et c'est vraiment comme ça que je l'ai perçu. Je me suis dit, j'ai jamais pensé de ma vie à aller à Vienne. Tu vois, genre, j'ai pensé à aller au Canada, j'ai pensé à éventuellement revenir en France ou aller en Espagne, mais je me suis dit, j'ai jamais pensé à aller à Vienne. Et c'est vraiment un vrai changement qu'il me faut. Donc c'est ce que je vais faire. Et voilà, c'est comme ça qu'on a déménagé ici. Ce qui, après coup, était un excellent choix pour le Covid. On a un appart qui est très 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 sympa. On est en plein centre. On paye vraiment pas cher par rapport au prix des capitales européennes. Et la gestion ici, je pense, est assez correcte. Donc
La gestion, tu veux dire, de la pandémie, c'est ça?
ouais. Bah du coup, j'ai ma famille en France, donc je vois un petit peu comment les choses se passent en France avec notamment les attestations papier. Enfin, je vois la. Enfin, ici, ça a été plus tranquille. Il y a un couvre-feu, évidemment, il y a des mesures, on a des masques et tout, mais je pense que on a eu plus de liberté, en fait.
D'accord.
Donc,
Bah, si tu le dis, je te crois. Mais il y a beaucoup de cas?
bah écoute, un des avantages de ne pas comprendre l'allemand, c'est que je n'écoute pas les nouvelles. Donc, évidemment, je me tiens au courant, mais c'est vrai qu'en fait, j'ai quelques médias français, mais du coup, j'ai pas toutes les news, je regarde pas hyper régulièrement ce qui se passe, donc
Ok.
je suis au courant via mon entreprise, mais bon, vu que je suis en télétravail en ce moment, spoiler, donc je suis dans un 9 to 5.
Oui, donc
Ouais.
t'as retrouvé comme disait ta mère, un vrai travail en arrivant en
Ouais.
Vienne, c'est ça?
Ouais, donc j'ai pris une année sabbatique. Une année sabbatique, donc 2019 à 2020, c'était mon année sabbatique, où j'ai pris en fait le temps de visiter Vienne, de me balader, de rencontrer des gens, de prendre des cours d'allemand aussi. Et c'était vraiment un an. Donc ça, c'était un an dur en fait, où quand je compare en fait aussi mon business, je comparais souvent comme si c'était un ex. Et comme tout le monde peut avoir un ex, quand tu regardes ses réseaux sociaux de ton ex. S'il est hyper content qu'il a retrouvé quelqu'un et tout, bah en fait, ça va être un peu te crusher, tu vas être un peu triste, tu vois. Si tu vois qu'il est super malheureux, qu'il bousille sa vie, bah tu vas être un peu triste. Et en fait, quoi qu'il se passe sur les réseaux sociaux de ton ex, bah tu vas être triste parce que c'est ton ex. Et moi, avec mon shop, c'était pareil. Je me suis dit, si elles réussissent, si elles font un taf de monstrueux et qu'en fait ça marche toujours bien, bah je vais être dégoûtée parce que je vais être super jalouse en fait. Et je me suis dit, mais si à l'inverse ils font n'importe quoi et que les clients sont pas contents et tout, bah, ça va me déprimer parce que je me dis bah c'était mon petit bébé, tu vois. Donc c'était une année difficile en fait où c'était dur de. Je me suis un peu coupée des réseaux sociaux aussi. J'ai arrêté bah, du coup de regarder trop ce qu'elle faisait, ce que mon équipe et la personne qui a repris faisait. J'ai eu des échos et tout, mais c'est vrai que j'ai tenté de me tenir à distance. Et j'ai eu un petit souci parce que la personne donc, qui m'a acheté devait me payer comment tu dis en français, quand les gens te payent en versement. La personne devait me verser donc un dernier versement quelques mois après, ce qu'elle n'a jamais fait évidemment. Donc ça a été un stress monstrueux. Donc tu vois, j'avais fait un contrat cette fois-ci, j'avais appris de mes erreurs, donc j'avais fait un contrat avec cette personne-là qui était signée et approuvée et tout. Et il y a eu ce petit couac sur la fin qui était difficile aussi parce que ben voilà, du coup c'est de l'argent qui manquait, c'est de l'argent que j'avais prévu du coup d'avoir un peu plus tard dans l'année parce que je m'étais dit bon comme ça quand j'aurais besoin d'un peu plus d'argent j'aurai ce versement de cette personne qui ne m'a pas payé, donc c'était une autre leçon d'apprise. Et puis c'était pas énormément d'argent mais
ouais.
C'était un petit coup quand même. Et voilà, donc après j'ai à un moment donné j'ai réussi à reprendre contact donc avec mes anciennes employées et puis en fait pour je pense c'est vraiment dans la séquence du deuil en fait à le moment t'as un peu le déni où tu veux pas du tout savoir ce qui se passe et puis après à un moment t'es quand même curieux et j'avais encore un peu ces petits trucs d'anxiété de regarder de me dire ah c'est super bien ce qu'elle fait c'est mieux que moi et des fois elle me dit ah putain j'aurais pas fait ça comme ça donc c'est vraiment des mixed feelings et en fait c'est pour ça que j'ai un peu je me suis un peu coupée des réseaux. Et puis l'été dernier, j'ai une de mes clientes qui m'a envoyé une et donc entre temps, mes employés sont partis. Enfin, la gestion a pas été faite tip top et elles en avaient marre de la personne qui gérait. Donc en fait, ça s'est un petit peu dégradé, je pense. Et au mois d'août dernier, il me semble, une de mes clientes m'a envoyé une photo de la façade et c'est devenu donc cette personne-là a tourné le shop en un truc sectaire, un petit peu sectaire de religion. Je savais que cette personne était mariée à quelqu'un, un pasteur, il me semble, et c'était dans une religion un petit peu, enfin, je sais pas trop, mais et elle me parlait tout le temps de religion, etc. Il fallait que je vienne avec elle à l'église, un peu en rigolant, mais je savais qu'il était assez religieux. Et donc, cette cliente m'a envoyé la façade du magasin et c'était devenu The Ministry of Bible something. Et j'ai eu un choc en me disant, mais c'est tellement improbable que enfin c'était improbable en fait vraiment c'était
ça t'a fait un petit coup au cœur
et ben un petit peu oui parce que du coup je me suis dit ben ça y est le shop existe plus mais en fait je pense que ça a été aussi un relief comment tu dis un
soulagement
merci soulagement parce que je me suis dit bah ça y est c'est la bougie est éteinte la boucle est bouclée c'est fini ça veut dire que le bout d'histoire que j'ai créé en fait et c'est quand je suis partie de d'Irlande je me suis dit j'ai vraiment créé un bout d'histoire dans deux villes et j'ai eu des centaines probablement 1000 clients et 1000 personnes que j'ai touchées et je me suis dit bon j'étais un peu triste de laisser ça derrière moi quand même et là le fait qu'il se soit fermé officiellement je me suis dit bah ça y est en fait c'est je peux revenir en Irlande c'est vraiment très bête hein, de dire ça comme ça mais je peux revenir sur Cork en Irlande et passer dans cette rue et me dire ben c'est fini il y a plus de traces de moi c'est comme ça et je pense que ça en fait ça m'a fait du bien de me dire bah ça y est il est fermé il y aura plus de clients très contents ou mécontents c'est juste que c'est un bout d'histoire qui se termine et je pense que ça a un peu contribué à la fin du deuil aussi.
Ouais, je comprends. Il y a Français qui me demandait si j'avais ce sentiment aussi, tu sais, par rapport notamment aux réseaux sociaux et tout. En fait, moi, j'ai une ligne assez simple depuis la revente de Mademoiselle. C'est que je pars du principe que, de toute façon, j'étais plus en position, en capacité d'amener le site là où il méritait d'aller, si tu veux. Donc, je fais en sorte d'avoir de n'avoir aucun regret en fait et tu vois de me dire juste bah en fait j'ai refilé le bébé à quelqu'un d'autre et en fait maintenant il faut qu'il vive sa vie sans moi donc ouais j'essaie vraiment d'avoir ce truc là et de me rappeler l'état d'esprit dans lequel j'étais au moment où je voulais vendre parce que je pense que c'est vraiment ça c'est un peu trop facile de revenir 6 mois ou 1 an plus tard et de réécrire un peu l'histoire, même si tu peux avoir des, même si c'est, je pense, important aussi d'écouter si t'es triste d'avoir quitté ton business alors que, et que t'as pris une décision trop hâtive, etc. Mais d'une manière générale, moi, j'essaie vraiment d'avoir ce truc de me rappeler d'où j'étais, ouais. dans quelle position j'étais, et de me dire, bah, en fait, je voulais plus le faire. Donc, ouais. c'est un poil trop facile d'arriver aujourd'hui et de faire l'inspecteur des travaux finis et de faire, alors moi, je l'aurais pas vraiment fait comme ça. Non, c'est tout.
C'est bien, je trouve, d'écrire, en fait, quand tu prends des décisions, parce que je sais que j'ai énormément écrit à ce moment-là, vraiment toutes mes questions, tous mes questionnements. Et quand j'ai eu des doutes, en fait, ou que je me suis retrouvée dans des situations similaires, en fait, j'ai relu ce que j'avais écrit et je me dis, ah ouais, c'est vrai que c'était cool d'être auto-entrepreneur, mais en fait, il y avait tellement de choses qui me soulèvent, quoi, sur la fin. Donc, je trouvais ça aussi bien d'écrire.
Oui, c'est que, bah alors je suis d'accord avec toi, et d'écrire tous les matins et d'écrire et en fait de t'obliger à écrire parfois parce que ça t'oblige à sortir des trucs que t'as pas forcément envie de sortir.
Est-ce que tu fais tes 3 pages le matin?
J'essaye vraiment, c'est ouais. je sais pas si je fais 3 pages, mais je, tu sais, comme je les écris sur l'ordinateur, si tu veux, je sais pas si ça fait 3 pages. Juste.
Ouais, j'ai des petits bouquins, ça s'appelle les journaux de 5 ans.
Ah oui.
Et du coup, t'as une page et il y a 5 case, et du coup une case c'est par an. Donc c'est marrant parce que je vois il y a un an, bah justement on s'installait sur Vienne, il y a 2 ans, etc. Enfin il y a 2 ans on s'installait sur Vienne.
Et alors tu m'as dit un autre truc dans les vocaux, c'est que tu m'as dit que t'étais un peu désemparé maintenant que t'as ce job un peu plus classique, on va dire, de te dire, est-ce que je vais réussir, parce que est-ce que t'as encore envie de monter un business, un de ces 4, non, c'est ça?
Alors moi je pense que c'est vraiment dans mon sang, vraiment c'est un truc que j'ai depuis 15 ans, je me suis dit je veux que ma vie soit mon job et mon job soit ma vie, enfin un truc comme ça, cette idée de je veux pas en fait avoir la vie séparée, de bosser 5 jours par semaine et d'avoir le week-end et de... Je n'ai jamais aimé cet état d'esprit, même si j'ai fait des 9-to-5 et j'ai bossé comme ça. Mais je me suis toujours dit non, moi je veux que faire ce que j'aime tout le temps et que ma vie soit ma passion, etc. Mon job soit ma passion. Et donc après un an d'année sabbatique, je savais très bien que janvier 2020 j'allais devoir retrouver un boulot parce que j'avais pas forcément d'idée de ce que je voulais faire, et puis j'avais envie de retester un peu la vie d'employé parce qu'évidemment il y a énormément d'avantages, et j'ai eu énormément de chance. Du coup je pense avec l'année qu'on a eue, j'ai trouvé un boulot dans une boîte autrichienne, donc c'est une boîte de cryptocurrency, donc c'est vrai, donc c'est les gens qui
les bitcoins.
Achètent des bitcoins. Là il y a beaucoup d'actualités au niveau du bitcoin en ce moment, c'est comme je te disais la semaine dernière, on est 4 personnes à s'occuper de tous les utilisateurs européens qui veulent acheter des bitcoins en ce moment. Non, c'est un job ça fait 10 mois que je suis, donc je pense que c'est en fait le job où j'ai été le plus longtemps pour le moment, donc c'est assez intéressant de voir ça aussi. Et donc il y a des côtés que j'aime bien, mais des côtés aussi qui me pèsent. Et je me dis, j'aimerais être de nouveau auto-entrepreneur, ou j'aimerais de nouveau lancer mon truc. Mais c'est vrai qu'en fait, j'ai eu vraiment cette pensée bête aussi de me dire, j'ai l'impression d'avoir fini ma carrière parce que j'ai commencé avec le job de mes rêves. Enfin, faire des dreads, c'est pas le job de mes rêves. C'est devenu en fait mon premier business comme ça, parce que vraiment, ça coulait de source pour moi. J'ai pas le fait les décisions de louer les magasins, c'était des décisions importantes parce que ça allait être une charge financière. Mais c'est vraiment ce que je faisais depuis quasiment longtemps, quoi. Je faisais des dreadlocks et j'avais un service client impeccable, etc. Donc j'avais juste un salon, donc j'étais plus officielle. Et donc ouais, je sais que j'aimerais être j'ai ça en moi, j'ai envie d'être auto-entrepreneur encore, j'ai envie de monter mon truc, mais j'ai eu ce vide de ma vie est finie, ça y est, j'ai fait le truc de mes rêves, ça m'a pris 10 ans et j'ai eu le top du top, j'étais entrepreneur, j'ai eu 2 employés, j'ai eu un salon super beau, je l'ai vendu. Qu'est-ce que je peux faire de plus, tu vois? Donc c'est quand il y a eu toi, ta situation par rapport à Mademoiselle, je me suis dit, mais enfin je comprends du coup la vente et tout, etc. Mais je me dis, mais waouh, comment tu rebondis après avoir fait un truc aussi gros, quoi?
C'est le moment où je réponds, c'est ça?
C'est ça. Tu me donnes la solution. Dis-moi.
Je n'ai pas de solution. En fait, et c'est surtout, c'est un truc terrible, c'est que. Alors en plus, Mademoiselle, c'est un truc un peu public, si tu veux. Donc c'est un peu compliqué aussi parce que les gens, j'ai l'impression qu'ils m'attendent au tournant, tu vois. Et en fait, j'ai pas du tout envie de ça, tu vois. Parce, ouais. Et surtout, tu vois, il y a des gens qui m'écrivent, on me dit, je pense que tu me l'as dit aussi, ça me fait à chaque fois sourire, tu vois, qui me disent, bah, j'ai hâte de voir ce que tu vas faire ensuite. Et en fait, je suis là, bah, en vrai, je sors quand même 2 ou 3 podcasts par semaine, tu vois. J'ai trois trucs sur ma chaîne Twitch que je suis en train de tester. Je t'avoue que j'ai pas la sensation d'être en train de rien faire, quoi, tu vois. Et, ouais. Mais c'est vrai qu'après, j'ai ce truc aussi de me dire, est-ce que je vais monter, bah, tu vois, un peu comme Mademoiselle, est-ce que je vais monter un truc qui sera plus grand que moi, hein? Est-ce que je vais remonter un truc qui sera plus grand que moi, ou je vais pouvoir, tu vois, monter, revendre, qui sera pas forcément rattaché à ma propre personne. Et ça, je t'avoue que pour l'instant, c'est un poil tôt, quoi, tu vois, pour moi. Enfin, je sais pas toi comment tu le vis, mais moi, en tout cas, j'ai pas la sensation que je remonterai plus jamais, que j'arriverai plus à faire aussi bien. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas cette sensation-là.
Donc, tu penses que tu arriveras à faire aussi bien?
Ouais.
T'as fait une double négation.
Ah, pardon.
Non, je suis pas sûr d'avoir compris.
Je ne pense pas dans ma tête que je n'arriverai pas à faire aussi bien.
Donc, tu penses que tu arriveras à faire aussi bien?
Ouais.
Ouais. Bah ouais, c'est en fait donc quand je me rappelle un des derniers moments où j'étais assise sur ma chaise dans mon magasin, je pense que je me suis dit bah ouais, il faudrait que je trouve un autre craft en fait, parce que vraiment les dreads, j'ai envie d'arrêter. Et je me suis dit tiens, c'est marrant, j'ai toujours aimé les crânes d'animaux avec des fleurs ou des trucs un peu comme ça. Et en fait ça c'est pareil, je l'ai pensé très 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 loin dans ma tête en me disant ouais, j'aime bien. C'est tout. Et en fait, quand je suis arrivée à Vienne, quand on a trouvé un appart, je voulais vraiment un appart en fait où je pouvais avoir une pièce à moi. En fait, vu que j'allais plus avoir de shop et d'atelier, bah en fait avoir une pièce où je puisse avoir bah mon petit bureau et puis mon coin création qui est de l'autre côté. Et puis parce que mon copain est polonais, du coup en Pologne il y a beaucoup de forêts et donc il y a beaucoup de gardes forestiers. Et puis je sais plus comment on s'est trouvé ça. En fait, on a acheté un petit paquet de crânes de chevreuil en fait à pas cher, parce que c'est il y a énormément de taxidermistes et de trafic en fait de crânes d'animaux dans le monde entier. Quand on s'y intéresse, il y a vraiment un commerce énorme par rapport à ça. Et donc voilà, j'ai commencé, vu que j'étais en année sabbatique, et ben m'acheter un peu de matériel de peinture et tout. Et puis j'ai commencé à fermer mes trucs, et puis je me suis inscrite sur Etsy, une plateforme donc de vente de trucs artistiques en ligne, où j'avais été inscrite depuis très très longtemps. Et puis j'ai commencé un peu vite fait à refaire un peu de ma com, un peu de marketing et tout. Et puis pendant j'ai fait ça pendant 1 an, et donc là j'ai fait plus de 200 ventes cette année. Donc en fait ça a été vraiment un chiffre d'affaires assez conséquent, et je m'y attendais pas. J'ai vraiment commencé en me disant ça va être un hobby, ça va vraiment être un truc pour le délire, juste comme ça. Je me suis dit je vais pas me mettre de pression, mais encore une fois, tout au fond de ma tête, je savais très bien que si je faisais un truc, ben je voulais le vendre, et je voulais réussir à gagner assez d'argent pour réinvestir dedans, et puis ben faire un hobby qui puisse payer pour lui-même, quoi.
Et voilà,
ouais.
Et est-ce que t'as la sensation que, comment dire, est-ce que t'as un peu la sensation que c'est un sous-projet par rapport à ton projet de dread?
J'ai l'impression que ça commence pareil, mmh. Puisque là mon apport financier, etc., c'est mon boulot, et c'est là où je passe le plus de temps. Mais c'est vrai que mon truc de skull, comme je l'appelle, c'est ce que je fais à côté, mais en même temps j'ai vachement investi dedans, et c'est vrai que j'y pense très sérieusement, parce que en fait, d'ailleurs aujourd'hui j'ai reçu le papier pour m'enregistrer dans la chambre de commerce là sur Vienne, 1 an après. Ne le dis à personne.
Oui, parce que c'est ce que font. Mais ne le dis à personne, t'es en train de le dire dans un podcast.
Ah non, mais ça y est, normalement j'ai eu mon numéro aujourd'hui. D'ailleurs, je voulais m'inscrire sur le site, ils sont en maintenance, donc ouais. À partir d'aujourd'hui. Mais ça, je me suis dit bon, ça y est, cette année je m'y mets. Je voulais faire ça l'an dernier et j'ai été découragée par la paperasse en allemand. Vraiment, ça m'a découragée. Du coup, je me suis dit cette année, je m'y mets. Et puis, éventuellement, je me trouverai un comptable ou quelqu'un pour m'aider à l'administration, que je puisse payer, qu'il fasse tout, parce que c'est vraiment pas mon délire. Donc ouais, je prends des... Mais je sais que au fond de ma tête, je me dis ben oui, je veux continuer à faire beaucoup plus de trucs et à réussir à avoir plus d'argent avec ça. Pas avoir plus d'argent parce que je suis vénale et je veux avoir plus d'argent, mais c'est de l'argent au point où éventuellement bah, je veux travailler moins et puis ben faire plus de craft et voilà, pas réussir à vivre de ça, parce que c'est pas du tout mon but, mais en fait faire des trucs créatifs qui me plaisent et puis que ça paye pour ça, quoi.
Et comment c'est... Pardon, oui. J'ai mis le lien dans le chat et si vous écoutez en replay, je vous le mettrai dans les notes de l'épisode. Mais ouais, c'est intéressant. Et comment tu vis le fait d'avoir repris un job salarié où j'imagine tu dois faire partie d'une équipe et tu dois t'es cadré quoi, tu vois.
Oui, alors j'ai beaucoup de chance parce que c'est une boîte qui est très sympa, qui est en plein boom aussi. Et c'est une boîte assez jeune. Donc j'ai une équipe. Quand j'ai commencé au début de l'année, on était 8. Là, on est plus de 30. Donc c'est une boîte qui est en train d'exploser. Et je vais changer aussi de fonction aussi le mois prochain parce que du coup, ces deux derniers mois, novembre, décembre, on a eu énormément de boulot et j'ai toutes ces questions qui sont revenues dans ma tête en me disant, mais est-ce que ça me plaît vraiment? Est-ce que j'ai vraiment envie de continuer à faire ça? Qu'est-ce qui me plaît dans ce boulot, etc. Donc il y a des côtés positifs, des côtés négatifs. Là, j'ai une équipe qui est très très sympa. Je vois vraiment que je peux évoluer aussi et faire des choses très différentes. Et c'est hyper intéressant aussi de faire un boulot qui est très très terre à terre dans une entreprise fintech. On dit ça en français, fintech.
Ouais, fintech, on dit quoi?
Fintech. Ouais. Et puis c'est le fait qu'il y ait le Covid et tout, c'est évidemment un truc qui rentre en compte parce que je me dis, je fais partie des gens qui ont énormément de chance, je pense, de travailler en home office. Mon copain, du coup, il est rentré dans la boîte aussi. Il était barista avant et pendant plein Covid, comme tout le monde, il s'est fait virer, enfin virer plus ou moins quoi. Et en fait, en août, il a réussi à rentrer dans ma boîte, donc on bosse dans la même équipe. Et je pense qu'on se rend vraiment compte qu'on est chanceux en fait d'être dans une boîte qui en plus nous permet vraiment de travailler en home office enfin en télétravail confortablement. Et puis malgré que j'ai eu la sécurité financière avec ce boulot là même si avec ma vente de crâne et tout j'ai quand même fait pas mal de rentrées d'argent, je veux pas en fait me reposer financièrement pour moi ce qui est un hobby pour le moment. Et au niveau de comme tu dis, du fait du que c'est cadré, la hiérarchie, ils savent très bien que j'étais auto-entrepreneur avant et c'est un truc que j'ai pas du tout caché. Et justement, un de mes cadres, il a 22 ans, donc il est beaucoup plus jeune que moi, mais il est extrêmement, il est allemand, donc il est très très strict et tout. Mais j'ai eu une discussion avec lui et en fait, il est très 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 mature et je lui ai fait comprendre que oui, j'avais besoin de faire d'autres choses et qu'éventuellement j'avais besoin de bosser moins ou que j'allais me prendre un congé sans solde, mais que j'avais besoin à un moment donné de faire autre chose en fait et que c'est hyper important pour moi. Et je pense que j'ai vraiment la chance encore une fois d'être dans cette boîte qui comprend en fait ses salariés. Donc pour le moment, bon, on va voir comment la situation évolue. On va dire mais vu que j'ai pas ce projet, j'ai pas ce truc qui me dit je vais monter un projet, je suis dans la balance en train de me dire, bon, d'un côté, je pourrais éventuellement quitter le job dans 6 mois et me relancer dans un truc, mais d'un autre côté, je me dis, bon, là, est-ce que c'est le bon moment, même au niveau du mondial? Je sais pas.
Je crois pas que... Enfin, en tout cas, je fais des gros bisous à tous les gens qui lancent leur business là depuis un an, quoi. Ouais. Ça doit être quelque chose. Et ouais, parfois, comme t'as, comment dire, investi de l'argent et tout, t'as pas vraiment le choix de faire autre chose que de te lancer, quoi. Ouais. Et franchement, moi, c'est l'une des raisons aussi pour lesquelles je prends le temps, c'est que vraiment, c'est la pire année, je pense, de tous les temps pour en tout cas, pas de tous les temps, mais en tout cas, au 21e siècle, pour relancer un nouveau projet, quoi. Faut pas trop, trop s'énerver, quoi, cette année-là.
Et j'adore le contact physique, le contact de la vie réelle, en fait, et c'est pour ça que je pense que j'aimerais réouvrir un magasin ou pourquoi pas un magasin de curiosité, un magasin de sorcières, un truc un peu dans cette vibe-là. Et c'est pour ça qu'en fait, je pense que c'était aussi, pour revenir à mes dreadlocks, c'était ça le ultimate step, c'était vraiment d'avoir mon magasin. Et une fois qu'il était vraiment hyper beau, que les gens vraiment l'adoraient, que j'avais mon équipe et tout, là je me suis dit, ça y est, je peux la boucle est bouclée. Et je pense que j'ai envie d'un moment donné réouvrir un magasin parce que j'adore le design, enfin j'adore créer un... Tu sais, t'as des gens qui vont faire des vidéos ou des podcasts qui vont créer une ambiance. Mmh. Du coup, des podcasts dernièrement, des trucs de tueurs en série, et ils te créent une ambiance. Et je pense qu'il y a des gens qui ont le don de faire ça, mais moi, j'adore faire ça dans un magasin physique, en fait, inviter les gens à entrer dans ton
univers.
N'est-ce pas, dans ton univers, voilà. Et les gens, ils étaient... j'ai gardé des souvenirs merveilleux des gens qui rentraient dans mon magasin de dreadshop en me disant, waouh, c'est c'est bluffant. Et les gens, je leur ai fait découvrir vraiment un autre aspect des dreadlocks. Et je pense que j'ai envie de refaire ça avec autre chose et travailler avec des collaborateurs, travailler avec d'autres gens qui lancent leurs entreprises. Un truc que j'adorais faire, c'est en fait travailler avec des gens qui veulent devenir auto-entrepreneurs et vraiment, alors pas faire leur com, pas faire leur marketing, mais être un peu coach, tu sais, pour comprendre quel est leur produit, ce qu'ils veulent faire et vraiment les aider à mettre ça en place. Je pense que c'est un truc que j'aimerais vraiment faire.
Parce que c'est un peu ce que j'allais dire, c'est que s'il y a un autre truc qui est génial dans ta position, c'est que si demain tu relances, que tu réouvres une boutique, tu vas pas refaire les mêmes erreurs que t'as pu faire par le passé, quoi.
Ouais, ça c'est clair. Ouais, j'ai appris énormément. Ouais.
Bon, j'ai mis le lien. Ça s'appelle Curiosities Vanities. Ouais. Et c'est trop chouette, hein, franchement. Et tu fais ça chez toi, donc, c'est ça?
Ouais,
sur ton temps libre.
Ouais, oui, exactement. Ouais. Là, c'est vraiment le truc qui me relaxe. Je mets un podcast, je crée, et c'est vrai. Là, j'ai vraiment retrouvé ces moments de flow, en fait, vraiment où tu te mets à créer. Et t'es dedans pendant des heures et des heures et t'oublies de manger. Et c'est vrai que le combo podcast ou musique en faisant ça, c'est vraiment un truc qui m'a mis dans des états d'esprit où j'avais perdu, en fait, avec les dreadlocks, même si évidemment j'adorais toujours le côté créatif. C'était beaucoup plus, ben voilà, il y avait le côté business, il y avait le côté, je savais que j'avais des deadlines, je savais que j'allais rencontrer des clients, je savais que je faisais des produits pour des clients. Donc c'était aussi un petit peu plus, voilà, c'est quand tu fais des produits pour des clients, tu sais que t'as une petite pression derrière. Alors que là, mes petits crânes et tout, je les fais vraiment par en me disant je fais ce que je veux et après je les mets en ligne sur le site. Et puis les gens qui veulent les acheter achètent, les gens qui aiment bien aiment et puis voilà.
Ouais, c'est cool.
C'est bien aussi. C'est bien aussi les Etsy, c'est une plateforme, tu sais, tout est en ligne. Et puis ben, j'ai beaucoup de clients américains parce que c'est une plateforme principalement américaine. Et du coup, le matin, je me réveille, j'ai mon téléphone, j'ai l'app et puis. Je vois que j'ai fait une vente, deux ventes, donc c'est sympa aussi. C'est complètement différent de ce que je faisais avant, où j'avais des clients qui m'envoyaient des messages en me disant, ben voilà, je voudrais des dreads blondes, des dreads brunes, je voudrais faire ceci, cela, je voudrais ressembler à telle personne. Donc là, il y avait vraiment un processus artistique qui était différent. Puis il y avait une rencontre client, c'est un peu pour expliquer aux gens un peu comme un vrai coiffeur. Tu regardes des photos que t'aimes bien les dreadlocks, tu veux ça, bon, bah, tu vas voir ton coiffeur ou moi quand c'était pour les dreads, et puis on parlait, on faisait un diagnostic, on regardait les couleurs ensemble, je leur proposais quelque chose, et puis deux semaines après on se revoyait, j'avais les dreadlocks de préparer, et puis après on se faisait une session où je les attachais pendant une heure trente, et puis il y avait vraiment un contact, on parlait, donc c'était très très social comme travail. Et là c'est vraiment différent, c'est vraiment de la créativité. Je fais mon petit truc dans mon coin et puis je prends des photos et c'est sur Etsy et puis bon, bah c'est là.
Bravo, hein. Trop bien. écoute, bah merci beaucoup d'avoir... je sais pas trop s'il y avait d'autres choses dont tu voulais causer.
Je voulais, toi, parce que quand tu parlais justement de des podcasts que tu fais où les gens t'attendent un peu au tournant, j'ai eu cette impression là aussi, parce que les gens, je pense, s'attendaient vraiment à ce que, ben, je sais pas, je réouvre un dread shop, et c'était la première question des gens après, est-ce que tu parles allemand? C'était, tu vas réouvrir là-bas? Et je fais, non, c'est pour moi, c'est fini, quoi. Je pense pas que j'ai envie de me relancer dans un truc comme ça, surtout, dans un pays où je parle pas forcément la langue, je pense que c'est beaucoup plus difficile. Et est-ce que, du coup, t'as ressenti, toi, cette... Enfin, donc, tu disais que les gens t'attendaient au tournant fais les podcasts. Et est-ce que t'as quelque chose? Est-ce que...
En fait, c'est terrible parce que j'ai un peu l'impression que... Tu sais, je suis une... Alors, je sais pas trop si c'est ton cas dans ton entourage, mais en fait, j'ai un peu l'impression que je suis une meuf de 30 ans à qui on commence à dire « Alors, c'est pour quand le bébé ?» ou « C'est pour quand le mariage ?» quoi. Ouais, ouais. Mais, en fait, foutez-moi la paix. Je sors de 15 ans de travail acharné, et en fait je suis content aussi avec mes podcasts parce que ça me permet de pouvoir déjà me maintenir en activité, mais c'est vrai que, et puis de pouvoir gagner des sous aussi, ça c'est bien, mais c'est vrai que j'ai vraiment cette sensation là où les gens me disent j'ai hâte de voir ton prochain projet. Ouais. Là où moi j'ai envie de leur dire deux secondes, en fait, vraiment Et puis je sais que c'est toujours positif, hein, tu vois. Donc c'est, je vais pas non plus les envoyer bouler. Et je pense que j'ai parlé avec un ami qui a relancé dans la foulée une autre boîte en fait. Vraiment, donc il avait une boîte qu'il a vendue et il a relancé vraiment le mois suivant. Il a pris 15 jours de vacances et il est reparti dans une autre boîte, dans un autre projet. Et là, ça fait 2 ans maintenant qu'il a lancé son truc. Et il me disait t'as raison en fait de prendre ton temps, parce que moi vraiment j'ai la sensation que j'aurais dû faire ça. J'ai pas pris le moindre. Alors après, je pense qu'il avait aussi un truc de marché, si tu veux. Tu vois, il a lancé une boîte de podcast. C'était le moment ou jamais, quoi. Tu vois, il pouvait pas prendre 6 mois, 1 an. Il fallait battre le fer tant qu'il était chaud. Mais ouais, de ce fait-là, je pense qu'il s'est dit, ok, en fait, j'ai pas vraiment profité du tout de mon arrêt. Et en fait, moi, cet été-là, j'ai pris 2 mois et demi de vacances. C'est la première fois depuis que j'avais 15 ans, tu vois, que je prenais des vacances aussi longues, en tout cas.
Ouais. Et j'ai l'impression qu'il y a un peu un. Là, ça fait donc 1 an, j'ai eu mon année sabbatique, et puis cette année en 2020 où j'ai bossé, qu'il y a un truc aussi. Je commence à me dire, le momentum est un peu passé. Et du coup, j'ai l'impression, bah, du coup, de me tasser dans cette vie. Bah voilà, j'ai un salaire, j'ai un copain, je suis installée. Et des fois, j'ai un peu ce truc de me dire, il faut que je me presse. La vie n'attend pas. Et je me dis, des fois, je me dis, faut que je me grouille à faire mes trucs et tout. Et en même temps, je me dis, mais en même temps, relax, quoi. La situation actuelle ne fait pas, n'est pas propice à, comme on disait, créer autre chose. Et puis c'est vrai que j'ai pas d'idée, j'ai pas un concept, j'ai pas de concept. Je pense pas que Vienne, c'est l'endroit où j'ai envie d'installer un magasin, tu vois. J'ai encore envie de voyager, j'ai encore envie de faire tellement de choses. Mais des fois, je me dis, bon, le momentum est passé, j'ai 31 ans, ça y est. Et c'est dans ces moments-là où je me dis, ça y est, ma vie est finie. J'ai eu le truc de... Et c'est vraiment des pensées polluantes, hein, des pensées toxiques, de se dire ça. Et j'ai vraiment essayé de me les enlever, mais j'ai toujours ce truc-là. Donc,
est-ce que tu vas finir par un jour tout plaquer ton mec et tout, et puis dire, ok, je prends une fléchette et je tire, je vais dans un autre endroit ailleurs?
Ah, peut-être. Hein. Il y a plein de pays que j'aimerais visiter. Là, je suis avec l'année 2020, j'ai essayé de me redire qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire dans ma vie. Et un rêve que j'avais depuis longtemps, c'est d'aller en Finlande, en fait. Et je me suis acheté plein de bouquins sur la Finlande, des romans et puis des bouquins de photos. Et je me dis, il faut que je me remette ce rêve en tête, en fait. Parce que je l'avais un peu oublié. Okay. Et puis, je me dis, en fait, j'aimerais vraiment faire ça. Donc, j'essaie de me redire qu'est-ce que j'ai comme rêve, qu'est-ce que j'aimerais mettre en place. Parce que des fois, je pense qu'on a l'impression aussi, on a l'âge et dans notre génération, et puis là, on peut faire un peu ce qu'on veut maintenant dans la vie. Enfin, on peut aller où on veut, on peut ouvrir n'importe quel business, on peut tout faire. Donc je me dis, j'essaie de me recentrer un peu, de me dire qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire.
Ah, c'est cool.
C'est pas facile.
Et en fait, tu sais, je me suis payé une coach en quittant Mademoiselle, tu vois, parce que je me suis dit, ok, à la rentrée, je vais faire en sorte de suivre un coaching pour me filer, pour m'aider en fait à remettre les choses à plat et les choses au point. Mmh. Et en fait, c'est marrant parce que régulièrement elle me demande des nouvelles, elle me demande comment ça va et tout. Et en fait, je lui dis, écoute, en ce moment, tu vois, il y a un gars qui m'a contacté pour monter un projet ensemble, et en fait, j'ai pas trop envie d'y aller. Elle me dit, en fait, si t'as la flemme, c'est qu'en fait c'est pas le moment et que ça viendra, tu vois, et qu'il y a un truc un peu, je pense qu'il y a un truc un peu naturel, et qu'il faut attendre que ce truc naturel tombe, tu vois.
Mmh, ouais.
Mais après, c'est... Vas-y, je t'en prie.
Je vais dire, c'est une excellente idée d'avoir une coach, ou un coach ou un mentor. J'ai un peu souffert de jamais avoir eu de coach et de mentor. C'est un truc où je me dis, des fois, j'aimerais en fait avoir un coach ou un mentor. Je pense que j'ai souffert de ça en auto-entrepreneur. J'ai jamais eu d'amis qui étaient auto-entrepreneurs. Donc, j'ai souvent essayé de rencontrer des gens qui étaient auto-entrepreneurs aussi pour qu'on discute, en fait, simplement de nos projets, de nos vies. Mais je pense que j'ai un petit peu souffert de ça parfois, de me sentir un peu seule dans cette position, parce que j'étais un peu plus jeune que la plupart des gens qui étaient auto-entrepreneurs. Et des fois, je me dis, ouais, je pense que c'est quelque chose que j'aimerais, en fait, avoir un mentor ou un coach pour, en fait, me pousser. Que ce soit sur ce projet de Skull, tu vois, que des fois j'ai un petit peu de mal à pousser parce que bon, ça marche tranquille, tu vois. Ou me dire, est-ce que j'ai des envies un peu plus profondes qu'il faudrait que je pousse, comme cette idée de lancer pas un business, mais d'être moi-même. Je pense que pour les choses artistiques, je sais comment faire pour pousser des choses artistiques à être vendues et, tu vois, non pas par la com ou le marketing, mais par, en fait, créer un concept. Et fois, je me dis, bon, si j'arrive à pousser ce projet-là, peut-être que j'arriverai à en faire quelque chose.
Bon, alors je me permets de te poquer une copine à moi, mais alors c'est pas sponsor. mais en fait, je l'avais interviewée dans l'histoire de succès. C'est une fille qui s'appelle Charlotte Scapin et qui a monté sa boîte qui s'appelle Carbon Theory. Et en fait, elle est coach. Et alors typiquement, elle fait ça, c'est-à-dire qu'elle a un programme qu'elle vend en ligne et qui t'aide à son truc qui s'appelle Get Your Shit Together, tu vois. Donc c'est vraiment c'est vraiment ça et qui t'aide en fait à remettre les trucs au bon endroit et à la bonne place. Et donc en fait tu payes le comment dire tu payes le droit d'entrer, à la fois d'avoir accès à son coaching, mais aussi à rentrer dans sa communauté d'entrepreneurs et d'entrepreneuses pour avoir de l'entraide en ligne en fait. Et en général, c'est des gens qui vendent des choses aussi, tu vois. Donc ça peut être intéressant, tu vois, d'avoir cette entraide là par ce biais là quoi. Bon voilà. Ouais. Si tu veux, je t'enverrai le lien.
Ouais. Des fois, alors j'ai pas forcément envie de rentrer en France, mais des fois, donc j'écoute beaucoup de podcasts et beaucoup de, enfin, je suis une communauté de gens qui sont artistes créateurs qui tous se concentrent sur Paris. Des fois, j'ai un peu l'impression d'être, c'est ma bande de potes, mais qu'ils ont juste jamais entendu parler de moi, tu sais. Mais des fois, je me dis, oh, j'aimerais monter sur Paris et en fait avoir cette chance de faire du réseau avec tous les gens qui y sont, parce que je pense que c'est vraiment un noyau fondateur de tellement de choses. Et j'avais ça en Irlande, vu que l'Irlande, c'est un pays assez petit au final, mais tout le monde se connaît. Et c'est un truc qui me manque. Et sur Vienne, j'ai pas vraiment lancé de projet, et j'ai pas vu qu'avec le Covid, évidemment, on a tous été chez nous. Je me suis pas poussée, j'ai pas vraiment mis ça en place. Mais c'est vrai que c'est une communauté, c'est un truc qui me manque, et je sais pas si j'arriverai à faire ça ici sur Vienne. Donc des fois, je me dis, Vienne, c'est peut-être la pause Covid, où on est dans un appart qui est cool, où moi je peux faire mes créas, où on bosse on a une compagnie une entreprise qui est cool. Éventuellement, à un moment donné, peut-être qu'on bougera de pays, on restera dans notre entreprise et on aura ça, le job à côté. Et puis, ouais. C'est dur de se projeter. C'est dur.
Cette année, c'est terrible, hein, je pense. Mais pour
c'est
tout
pour
le
ça
monde.
Que c'est. Ouais, non, c'est clair. Mais c'est pour ça que je suis contente d'avoir un boulot 9 to 5. C'est vrai qu'au final, ça évite de se poser des. Ça me fait me poser beaucoup de questions, mais bon, ça simplifie beaucoup de choses aussi, quoi. Si je stresse et tout, je me dis, bon, j'ai un boulot, je gagne assez d'argent à la fin du mois, je suis safe. C'est ce qui est important pour le moment, quoi.
Ouais, c'est cool. Merci beaucoup, Caroline. Vraiment.
J'en prie, merci à toi.
C'était très cool.
Ça fait plaisir.
C'était vraiment très sympa. Je vous ai donc mis dans le chat tous les liens. Je vais vous mettre aussi dans le chat si ça vous intéresse le lien de. Je t'ai envoyé le lien sur Discord.
Ok. Oui, moi je n'ai lu aucun message du chat. Je n'avais pas le chat devant
T'inquiète.
Moi. Les gens, parce que j'avais peur que ça me distrait. Donc bonjour à tous.
Les gens sont sympas.
Merci pour tous les messages.
Les gens sont très sympas. un grand merci à toi. Les gens, je vous fais des bisous. Je vous souhaite un bon week-end. Je vous donne rendez-vous lundi. Sachez que ce sera à nouveau Kalindi qui viendra cette fois-ci, parce que je l'ai convié en live, histoire que on n'ait pas de problème technique. Donc ça va être très chouette. Ce sera lundi prochain pour un nouvel épisode de la Reco avec cet excellent con de Kalindi qu'on adore. Caro, merci à toi. Vous pourrez retrouver le replay de cet entretien avec Caroline en mode bonus dans l'histoire de succès, parce que je pense que ça vaut la peine. C'est assez cool
ça serait cool. J'étais honorée d'être un petit bonus d'histoire de succès. Et puis, si les gens ont des questions sur mon parcours, ou même sur Vienne, ou sur l'Autriche, ou sur l'Irlande, j'ai vécu longtemps là-bas. Donc, s'il y a des gens qui sont sur Vienne, ce qui m'étonnerait, mais pourquoi pas, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram.
Tu sais,
ça fait toujours plaisir.
L'Internet est un monde tout petit, tu vois, vraiment. Donc, c'est très possible.
Ouais. Bah oui, juste pour la note de fin, je crois que je t'avais dit en message vocal, tu avais parlé de Jerry Hyde. Et c'est par rapport à un documentaire de Wall, il me semble.
The Work.
Pas The Work. Et donc oui, pour l'anecdote, quand j'étais à Galway, donc je vivais dans une espèce de résidence de méditation hippie, parce que mon copain de l'époque habitait là. Et le proprio s'appelait Shivam O'Brien, qui était un espèce de gourou. Et donc, après que tu aies parlé de Jerry Hyde, j'ai acheté un de ses bouquins. Et dans la préface du bouquin, il dédiait son intro à Shivam O'Brien, parce que du coup, il connaissait Shivam. Il avait visité ce centre de méditation, et j'avais eu un
mind blow.
Mind, mind blow en lisant, j'étais à l'aéroport en lisant ce bouquin en disant, mais attends, Fab a recommandé ce gars. Donc, je suis en train de lire le bouquin de Jerry Hyde et Jerry Hyde parle de Shivam. Et Shivam, c'est un autre bout de ma vie qu'en Irlande. Fab et l'Irlande n'ont rien à voir together. Et c'était tellement, tu sais, ce moment où, quand tu dis, les choses se recoupent et la différents levels de ta vie se recoupent. Et c'était vraiment impressionnant en me disant, mais j'ai, waouh.
Ça me parle. Voilà. Je vois exactement de quoi tu parles. Où j'ai parfois des amis en commun qui ont strictement rien à voir et qui finissent par choc mental, comme tu dis, foncé.
Ouais, c'était impressionnant. Je te reconnais pour ça.
Merci beaucoup, Caroline. Donc effectivement, je vous ai mis tous les liens vers le shop et vers l'Instagram de Caroline dans les notes, si jamais ça vous intéresse. Je vous dis rendez-vous lundi et puis merci à vous, bon week-end à tout le monde et puis bye bye.
Salut tout le monde.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.